RCF.
Chers amis auditeurs, bonjour. On se retrouve donc à nouveau chez Grégory Coutenceau. Et pour démarrer, on va se permettre un petit tour dans ses cuisines, la cuisine des feux. On va démarrer par, je vois une femme, là, une jeune femme qui fait quelque chose, je me demande bien quoi.
Je suis en train d'étaler de la pâte sablée au chocolat pour foncer des tartelettes.
Ça a l'air bien appétissant, je me demandais quelle était cette couleur brunâtre. Donc c'est une pâte avec du chocolat.
Oui, c'est ça, avec du cacao.
Je peux vous permettre de vous demander quel est votre rôle ici dans la cuisine ?
Oui, alors je suis apprentie en pâtisserie. Je prépare un diplôme, un BTM en pâtisserie avec le CFA de La Rochelle. Et du coup, je suis apprentie en pâtisserie depuis 3 ans.
Pas trop dur ?
Non, c'est bien.
Vous n'êtes pas la seule femme ici ?
En cuisine, si, je suis la seule fille.
Voilà, c'est dur. Ça fait combien de temps ?
C'est ma 3e année ici.
Bien. Je vois d'autres personnes ici. Je vais me diriger vers un monsieur qui écrit. Bonjour monsieur.
Bonjour. Eh bien Christophe, toi, le chef de cuisine.
Le chef de cuisine.
Voilà. Donc.
On arrive en fin de service là.
Tout à fait. Là on est en fin de service. On a encore quelques tables qui vont arriver. Et puis moi je profite d'un petit moment de répit pour élaborer des menus pour entre autres la Saint-Valentin.
En fait, il n'y a pas de répit.
Non, il y en a peu. Voilà.
Ça s'est bien passé aujourd'hui ?
Tout à fait, ça s'est très bien passé. Voilà, on sort des fêtes de fin d'année, donc ça a été assez intense pour nous. Donc là, on profite d'un petit temps de répit pour remettre les menus, les fournisseurs, tout remettre en place. Donc c'est toujours un petit peu des moments où la mécanique se remet un petit peu en route. Donc, les produits, bon là on est sur des périodes un peu plus calmes en ce moment, c'est logique. Hein, pour des régions comme pour La Rochelle, A fortiori, qui est une ville très dynamique et aussi très touristique, on a des périodes, janvier, février, qui sont des périodes plus calmes, qui nous permettent de faire des choses qu'on n'a pas forcément toujours le temps au quotidien.
Voilà, puis voilà. Une réputation à tenir. Il fait très chaud ici, là. Alors.
Tout à fait. Voilà, c'est une température ambiante qui est c'est notre quotidien. Hein. Vous savez, il y a toujours l'inertie avec tous les éléments qui sont en chauffe. Hein.
On n'arrête pas de chauffer, même entre deux plats.
On est toujours en chaleur constante, hein, aussi bien.
Comme les petits scouts.
Voilà, toujours, c'est ça. Donc, au propre comme figuré, la chaleur est toujours très, très soutenue en cuisine.
Ouais, moi, je suis admirative parce que je vois toutes les casseroles de même taille qui sont bien rangées, tout est impeccable, nickel. Elles sont en quoi ces casseroles ?
Alors, en général, on peut être. Chez nous, on travaille beaucoup en inox. Hein. En règle générale, les métaux les plus courants, autrefois c'était plutôt le cuivre et l'étain. Et aujourd'hui, hein, pour des raisons de coût, souvent l'inox a pris le pli par-dessus le cuivre. Voilà.
Plus pratique quand même.
Plus pratique. Et puis c'est vrai que du point de vue hygiène, l'inox c'est très simple. Voilà. Mmh. Voilà. Et bien effectivement, après on est obligé d'avoir. On est obligé d'être toujours très soigneux dans nos rangements parce que c'est des moments qui sont très intenses. Un service est en général entre 2 et 3 heures. Donc à fortiori, c'est des moments où il faut être très organisé, chaque chose à sa place,
il faut gérer
place à sa chose. Et il faut gérer le temps. On s'aperçoit de plus en plus que la clientèle a un temps imparti qui est de plus en plus court pour déjeuner. Voire même dîner, mais surtout...
On est pressé même chez vous.
Pardon, oui, toujours, voilà. Mais heureusement pour nous, on a aussi on a tout type de clients. Hein. On a une clientèle qui est assez hétéroclite. Donc,
quelle est votre difficulté principale dans un service ? Le temps ?
Ça fait partie.
Mais,
ça fait partie.
Mais vous gardez le service, c'est pas
bien sûr, il faut. Sinon, c'est pas vivable au quotidien. Hein, on fait un travail d'équipe, hein, donc un travail d'équipe, hein, il faut savoir gérer le stress, gérer le temps que nous avons pour pouvoir servir nos clients.
Justement, moi je suis surprise si je peux dire, c'est qu'il y a une très bonne ambiance là, donc c'est important l'ambiance d'équipe. Hein.
Il faut, alors je pense que ça fait partie un petit peu de la richesse de nos métiers. On travaille avec beaucoup de jeunes. Donc,
oui, c'est très jeune.
Voilà. Ce sont des gens qui ont plein de bonne volonté. Donc la volonté, ça se maîtrise, ça se canalise.
Oui, oui.
Mais bon, voilà, c'est très agréable. Et puis nous, ça nous permet de rester plus jeune, hein, et de ralentir l'horloge. Hein.
Voilà. Est-ce que je peux aller me permettre de déranger un bout de tissu?
Allez-y avec grand plaisir. Je pense qu'ils prendront un grand plaisir à le faire.
Merci, c'est gentil. Je vous en prie. Merci de votre accueil. Alors, je me dirige vers un autre plan de travail. Bonjour.
Bonjour.
Oh, des mises en bouche. Qu'est-ce que c'est là, les petites, je vois des épluchures, si j'ose dire, d'orange.
Peau de clémentine confite.
Vous voulez en faire quoi?
La poudre.
Donc là, votre mise en bouche, ce sera quoi?
Siphon de pommes de terre et merlot saté.
Est-ce que vous êtes... c'est votre tâche ici ou...
Non, c'est que je suis à ce poste-là aujourd'hui.
Les postes tournent.
Ouais, c'est ça.
Bien, bonne chance. C'est une vraie chanson qu'on entend là. Que fait-il ?
Et là, il est en train de démulsionner une sauce pour lui apporter la consistance nécessaire et l'amener à souhait. Voilà.
J'espère que les auditeurs, rien qu'en entendant ce bruit, ça va nous reproduire chez eux.
Mais j'espère, merci.
Merci.
Bon, je vous excuse, j'ai un bon travail.
Oui, quand même. On est là pour travailler.
Ça marche, table 11. En entrée, deux foie gras à suivre, une Saint-Jacques, une seule, pour suivre deux babas.
Oui, chef.
Alors maintenant, Grégory Coutenceau nous accueille dans ses bureaux après ce très sympathique tour en cuisine. Bonjour.
Bonjour.
Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce deuxième échange et je suis sûre que les auditeurs le sont tout autant. Dans notre première émission, nous avons évoqué la couleur des légumes et dans quelle mesure vous jouez des couleurs dans votre cuisine. Aujourd'hui, pour être plus précis, je voudrais savoir quelles sont les couleurs que vous utilisez le plus souvent, le moins fréquemment, dans vos préparations. Est-ce que vous avez un penchant pour telle ou telle harmonie de couleurs ?
Je vais dire que je dicte pas ma cuisine par rapport à des couleurs, par rapport à des saisons. Ça va se faire naturellement. Ce qui dicte le choix au niveau des couleurs, ça va être les produits que j'utilise. Donc c'est vrai que le printemps va arriver, on va être sur des produits, le vert va vraiment faire son apparition en cuisine. Et naturellement, hein, dans l'inconscient des gens, le vert, c'est un raccourci avec le printemps, la fraîcheur. Donc ça se fait, mais si vous voulez, je n'en fais pas un diktat et j'impose pas une couleur par saison. Après, à contrario, quand on va arriver en automne, on va être sur des couleurs beaucoup plus chaudes, des couleurs un peu plus ternes, hein, je veux dire un peu moins éclatantes, donc qui colleront bien à la saison. Mais pour moi, ce sont mes produits qui vont me dicter un petit peu cette ligne de conduite. Après, des couleurs que j'utilise pas en cuisine. En fait, c'est une couleur qu'on retrouve peu dans les aliments, c'est pour ça que je ne l'utilise pas. Ça va être le bleu. Mmh. C'est un produit qui est très peu présent dans les produits et donc que j'utilise assez rarement. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant un peu plus, on dirait, si on voyait une assiette avec du bleu à l'intérieur, on pourrait trouver ça bizarre. Tellement c'est peu répandu dans les légumes et dans les produits d'une manière générale.
Oui, alors là on est en hiver, je me demande bien quelle serait la palette de l'hiver, est-ce que ça vous inspire quelque chose ?
Alors la palette de l'hiver, oui bien sûr. Pour moi, l'automne et l'hiver, je les mets un petit peu ensemble. On va être sur des couleurs chaudes, des couleurs un peu plus patinées par le temps, hein, un peu moins flamboyantes que le vert du printemps ou le rouge de la tomate en été. On va revenir sur ces légumes anciens qui sont un petit peu plus ternes. Mais quand je dis terne, pour moi, le terne, ça a quelque chose d'assez joli, d'assez lisse, d'assez réconfortant.
Oui, c'est toujours, comme vous dites, le produit qui fait autorité. Je sais qu'en ce moment, vous privilégiez la truffe.
Alors, tout à fait. Donc là, on va être sur un produit qui est noir. C'est vraiment la saison. Donc actuellement, c'est vrai qu'on va privilégier ce produit et on propose à nos clients, pendant 3 semaines, un menu dans son intégralité, de l'entrée jusqu'au dessert, avec de la truffe qui viennent de producteurs de Charente-Maritime et de Charente.
Alors, vous me disiez que vous ne travaillez pas beaucoup le bleu parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans la nature, mais est-ce que vous évitez certaines couleurs parce que juste vous ne les trouvez pas appétissantes ?
Non. Je vais pas utiliser, je vais pas m'arrêter et faire le choix d'un produit par rapport à sa couleur. Pour moi, un plat doit avoir une harmonie. Une des règles pour moi aujourd'hui, et plus je vieillis, plus cette règle se renforce, c'est que pour faire un bon plat, il faut pas beaucoup d'ingrédients. Il faut des ingrédients de très bonne qualité et au maximum trois ingrédients principaux. Après, il peut y en avoir tout un tas d'autres autour de ça. Mais il faut trois ingrédients principaux et qui soient préservés pour ne pas perturber, je veux dire, le goût, le palais des gens et qu'ils se focalisent sur la qualité de ces produits-là.
Oui, parce que comme dans tous les arts, si on en dit beaucoup, on n'entend plus rien. Mais vos clients, alors, parce qu'on sait que l'on réagit facilement aux odeurs, celles de certains fromages rebutent parfois les Américains, est-ce qu'on réagit de la même façon aux couleurs, peut-être en fonction de notre culture ? Est-ce qu'il vous est arrivé d'être surpris de la réaction de vos clients devant l'aspect coloré d'une assiette ?
Non, pas par, pas par les couleurs. Parce que souvent, les gens choisissent au restaurant ce qu'ils ont envie de manger, et souvent ils savent que tel ou tel produit va avoir telle ou telle couleur, donc il n'y a pas de surprise pour eux. Après, à nous de rendre beau ce qui est déjà bon, et à nous de multiplier cette palette de couleurs. Par exemple, actuellement, on travaille un riz de veau avec les langoustines, avec tout un assortiment de légumes de saison, et là, notre rôle de cuisinier et d'harmonie à apporter dans la présentation de l'assiette pour que celle-ci donne envie au client. Après, je pense que ce sont des réactions personnelles que les gens peuvent avoir, d'aimer ou de ne pas aimer telle ou telle couleur. Mais c'est vrai que notre ligne de conduite à nous ne s'arrête pas là.
Alors, le symbolisme et la mode des couleurs existent en cuisine, comme ailleurs. Est-ce qu'il vous arrive, en utilisant telle ou telle couleur, de charger le plat d'un message, d'une symbolique ?
Oui, tout à fait. Quand vous utilisez le rouge, par exemple, à la Saint-Valentin, souvent, quand vous finissez le menu, vous faites un dessert qui est rouge. Parce que la symbolique de la Saint-Valentin, du rouge, eh ben, égale amour.
Incontournable.
Voilà, c'est vrai que ça fait un petit peu kitsch, peut-être, comme...
Mais c'est sympathique aussi.
Mais c'est un raccourci que les gens... que les gens aiment bien, et quand vous faites un plat de printemps, il faut qu'il y ait du vert éclatant.
Alors, je voudrais savoir si la couleur du produit que vous utilisez peut être une complication pour vous, par exemple du marron sur le marron, ou bien est-ce que associer deux couleurs très proches, comme la tomate rouge et la carotte orange, peut vous poser problème ?
Non, pas du tout. Après, il faut arriver à ordonner et agencer l'assiette avec d'autres éléments qui vont donner du rythme à cette assiette. Mais pour moi, ce n'est pas un problème majeur, parce que ce sont souvent des couleurs qui vont bien ensemble.
Oui. Et dans les difficultés que la couleur peut présenter, est-ce qu'il y a le fait qu'elle est susceptible de changer, cette couleur ? On l'a vu, les fruits et les légumes s'offrent maintenant dans beaucoup de couleurs. Et malheureusement, en les cuisant, on peut les faire disparaître. Le fuchsia des murs, par exemple, s'assombrit pour devenir indigo. Comment préserver leur jolie couleur à la cuisson ?
Oh ben là, il y a plein de... Alors là, on va rentrer dans les trucs et les astuces
de
cuisinier. Mais souvent, la grosse problématique pour les gens, je veux dire, ce sont sur les légumes verts. De garder le côté vert vif et non pas terme.
Mais vous pouvez nous expliquer exactement comment il faut faire ? Je suis sûr que nos auditeurs vont être friands de cette astuce.
Alors, c'est vraiment pas compliqué. En fait, il faut mettre les légumes verts dans une casserole d'eau à ébullition déjà. Et dans cette eau, il faut qu'il y ait 30 grammes de sel par litre d'eau. Donc les proportions
sont... C'est beaucoup, non ?
Non, parce qu'en fait, on fait juste une cuisson assez légère. Mais c'est non, c'est pas tant que ça.
Il faut qu'elle soit salée au goût.
Il faut qu'elle soit salée. Mais 30 grammes de sel par litre d'eau, c'est important parce que c'est juste en dessous le taux de salinité de l'eau de mer. Ah. Et ensuite, quand c'est cuit, il faut stopper totalement la cuisson en mettant donc ces légumes dans une eau glacée avec des glaçons en plus. Et là, on va bloquer la chlorophylle et ça va empêcher que le légume passe de cette belle couleur vive à une couleur terne. Et ça, voilà, c'est une petite astuce qui est très importante en cuisine.
Alors, à vos fourneaux, n'est-ce pas ? Vous me disiez en antenne que c'était pas forcément souhaitable de conserver cette couleur initiale.
Non, parce que après, ça dépend. Là, on était en train de se dire, voilà, comment on garde le vert étincelant des légumes. Mais après, selon la nature du plat, parce que je prends par exemple le cas du pot-au-feu. Qui est un plat, tous les gens savent que c'est un plat qui doit cuire longtemps et que ces légumes n'aient pas le côté étincelant du printemps, mais ce côté un petit peu plus chahuté, travaillé, un peu plus fané, ben ça va bien avec le plat parce que ce plat il doit cuire des heures et des heures. Donc dans la composition, dans l'intellect du plat, je trouve que il faut respecter en fait tout ça et ne pas se faire un diktat de la couleur à tout prix parce que ce côté fané qu'on peut retrouver dans le pot-au-feu ben va bien avec le côté rassurant, le côté posé du plat.
Oui, les cocooning, comme si des légumes à la couleur un peu passée, c'était déjà un peu endormi, chaleureux.
Voilà, tout à fait.
Ceci dit, ça m'est arrivé de déguster des pot-au-feu où justement le cuisinier a pris soin de cuire longuement la viande, mais de cuire au dernier moment les légumes pour qu'ils restent croquants.
C'est possible aussi. Ça nous arrive aussi à nous de le faire, mais je veux dire, c'est pour des raisons bien particulières. Mais je trouve que le pot-au-feu est un plat qui fait partie de l'histoire de la cuisine française. On peut le transformer, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas de règles, rien s'impose. On peut faire ce qu'on veut. Mais je trouve qu'on ne respecte, en faisant ça, on ne respecte pas, je veux dire, la règle et la nature du produit. Parce que l'idée vraiment du pot-au-feu, c'est qu'à un moment donné, tout cuise ensemble. Très longtemps, pour donner du goût, pour que les arômes se mélangent. Donc là, obligatoirement, si on fait une cuisson très courte sur les légumes, on va les faire cuire à part, donc ils ne vont pas avoir le goût de la viande. Ils vont pas avoir...
Voilà, c'est ça.
Et les légumes ne vont pas avoir donné leur goût à la viande également. Donc, on va avoir un plus, peut-être visuellement, avec des couleurs un peu plus chatoyantes, mais on va peut-être gustativement avoir un moins.
Oui, parce que c'est plus la même histoire.
C'est plus la même histoire. Et les deux histoires se valent. Après, chacun raconte l'histoire qu'il a envie de raconter.
Alors justement, comment réinterpréter un plat ? Parce qu'on n'invente pas un plat, vous dites, on le réinterprète. Est-ce que, à ce propos, la cuisine moléculaire est une façon pour vous de réinterpréter ?
Bah, pour moi, la cuisine moléculaire, c'est la limite de la cuisine. Dans le sens où, effectivement, en allant sur la cuisine moléculaire, on ne se met aucune limite dans la présentation, dans la couleur, dans la forme des choses. C'est vrai que là, on a une liberté d'exécution en termes de présentation qui est énorme. Mais gustativement, on n'y est pas du tout. En ce qui me concerne, c'est l'idée que je me fais de la cuisine moléculaire parce que je reste persuadé qu'à un moment donné, quand vous mangez une pièce de bœuf, vous avez envie de la mâcher.
Oui.
Vous avez envie de la voir entière, et pour moi du bœuf, c'est pas une infusion, c'est pas une vapeur, c'est pas une mousse, c'est quelque chose qui se mâche. Voilà, après, je veux pas être réducteur vis-à-vis, vous avez bien compris que la cuisine moléculaire et moi, c'est pas le grand amour, mais après, à nous d'être curieux, il y a des choses qui peuvent être intéressantes, parce qu'avec la sphérification, par exemple, vous pouvez faire avec du jus de citron des petites billes en suspension. Et je trouve que par exemple quand vous ouvrez des huîtres et vous allez déposer ces petites billes qui vont remplacer tout simplement le jus de citron, c'est marrant, c'est joli.
Oui, c'est non seulement marrant, mais c'est pratique, c'est joli et puis c'est savoureux.
Voilà, tout à fait, mais c'est un clin d'œil.
Oui.
On est dans le clin d'œil ici. On utilise effectivement la cuisine moléculaire, mais par petites touches et pour faire rire les gens, pour apporter un côté ludique aux choses. Mais attention à ne pas tout transformer.
Oui, oui. Alors, dans cette nouvelle cuisine, si l'on peut dire, on utilise beaucoup la gelée. Vous savez, dans les fonds d'assiette, c'est très joli. Elle peut donner une belle couleur vive, pour ou contre ?
Après, tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. Je veux dire, ça peut être intéressant, ça peut être marrant. En dessert, pourquoi pas, ça peut avoir un intérêt parce qu'on peut mélanger comme ça différentes textures dans le plat, parce que c'est toujours important. Ça aussi, on n'en a pas parlé, mais quand on déguste un plat, c'est ne pas avoir une mâche homogène, c'est-à-dire avoir à certains moments des parties de l'assiette qui vont être moelleuses, d'autres parties croquantes. Oui. Donc voilà, la gelée peut contribuer à ça. Tout un plat en gelée, non. Parce que avant, il y a très longtemps, la gelée, en fait, elle était utilisée simplement pour la conservation des plats, pour que les plats puissent durer plus longtemps. Et c'est vrai que gustativement, ce n'était pas obligatoirement toujours agréable, hein, ce côté gélatineux qu'on pouvait avoir en bouche. Donc, mais c'est comme tout, on peut tout utiliser, mais il ne faut jamais tomber, je pense, dans l'excès.
Oui, il ne faut pas le faire de façon gratuite. Alors, vous respectez, vous nous avez dit, la saisonnalité des produits, c'est pour vous essentiel. Parmi vos motivations, est-ce qu'il y a aussi le fait que la couleur du produit de saison est plus belle ?
Oui, il est très important de déguster les produits au bon moment, parce qu'il faut respecter ce cycle de la nature, ça me paraît indispensable. Et en plus, je trouve que c'est très stimulant comme ça. On sait que d'attendre un produit qui va arriver, voilà, quand vous arrivez au mois de septembre et que vous savez qu'un mois après, les coquilles Saint-Jacques vont commencer à arriver, vous faites le plaisir d'attendre, avoir tout le temps. Oui, ça peut, pourquoi pas, mais je veux dire, on tombe dans une société de consommation à outrance qui n'est pas obligatoirement bonne. La pomme qui est bien brillante, bien rouge, je veux dire, va être la pomme qui va être achetée par le consommateur parce qu'elle paraît sans défaut. Ben moi, ça ne m'intéresse pas, je préfère retrouver sur le marché une pomme cabossée qui va avoir une peau plus terne. Pourquoi elle est plus terne ? C'est simplement parce qu'il n'y a pas tout un tas de produits dessus qui la rend brillante. Mais attendez, vous avez deux produits qui n'ont rien à voir. Il y en a un qui va être déjà de nature, bon pour la santé, savoureux, qui aura été cultivé au bon moment par des gens qui le font avec déontologie. Oui, pour moi, ça, c'est de la belle couleur.
Oui, mais voilà, c'est la pomme rouge et luisante qui a fait craquer Blanche-Neige. Je comprends votre préférence pour ce qui est naturel, évidemment. Pour autant, votre client, il n'a pas envie de manger du terne et du moche, alors comment vous faites ?
C'est pas parce que c'est naturel que c'est pas beau, justement. Je trouve que ce qui est naturel est très beau. Et c'est à nous de le rendre encore plus beau. Voilà, je veux dire, par les cuissons, par la présentation et l'harmonie que l'on va mettre dans l'assiette. Regardez la diversité de tomates que l'on peut trouver. Vous en avez, je veux dire, de toutes les couleurs, de toutes les formes, avec des chairs plus ou moins denses. Ça, c'est la nature. Et est-ce que c'est pas beau ? Non, c'est magnifique.
Alors, justement, qu'est-ce qui vous permet de faire beau ? Est-ce que les chefs disposent de moyens naturels pour apporter de la couleur aux plats, comme le curry, le jus de betterave ? Est-ce que vous les utilisez, vous ?
Moi, je les utilise pas parfois, bien sûr, mais pas pour apporter de la couleur, pour apporter l'orientation que je veux donner à mon plat. Il est évident, quand vous allez travailler une sauce à base de curry, on va prendre la mouclade rochelaise, qui est une des spécialités de notre ville. Voilà, ce jaune éclatant va apporter une vivacité à l'œil et une image qui est très belle du plat. Mais moi, ce qui m'intéresse là-dedans, je ne vais pas utiliser le curry pour faire une assiette jaune. Mmh. Je vais utiliser le curry pour ce qui va m'apporter gustativement. Et en plus, c'est beau. Donc, c'est merveilleux.
Oui, alors, c'est vrai que le tarama, par exemple, le tarama naturel, comme le saumon sauvage, il est clair. Alors que la couleur rose, elle rassure le consommateur. Ce qui prouve bien que la couleur est aussi un code et vous êtes un peu obligé de respecter ce code.
Oui, mais pourquoi aujourd'hui ça les rassure ? Parce qu'on leur a dit que le tarama, ça devait avoir cette couleur. Je veux dire, des industriels qui ont emmené les gens à faire que cette couleur, entre guillemets, trafiquée, soit la référence.
Est-ce que vous pouvez nous confier, pour nous éduquer justement, une ou deux bonnes idées de coloration avec un colorant naturel ?
Moi, je trouve qu'un des plus beaux colorants naturels qu'on puisse avoir, je veux dire, c'est le safran. quand vous jetez un ou deux stigmates de safran dans un risotto, par exemple, ou dans une préparation, dans un bouillon, vous allez avoir ce rouge intense qui arrive, et je trouve que le rouge du safran, il a des petites notes de doré presque à l'intérieur. Je vais l'utiliser non pas seulement pour la couleur, mais aussi pour la palette aromatique et gustative qu'il va apporter.
Oui, et puis en plus, le safran, c'est cultivé ici, je crois.
Oui, oui, on a une très grosse production de crocus, hein, donc, qui servent à faire le safran en Charente et en Charente-Maritime.
Vous utilisez beaucoup les épices pour parfumer vos mets, et je suis d'accord, elles sont aussi belles que bonnes. Est-ce que leur couleur joue un rôle dans la séduction? À part le safran, qu'est-ce que vous utilisez?
Ah, mais bien évidemment que les épices jouent un rôle de séduction quand vous utilisez toute la palette des curcumas, des curries, de tout ce genre de choses qui donnent des jaunes éclatants. C'est vrai que ce sont des couleurs très chaudes qui suscitent l'envie. Encore une fois, moi les épices, quand je les utilise dans ma cuisine, ça va être simplement pour souligner et mettre en exergue le goût principal du produit. Ce n'est pas pour farder ou pour masquer le produit qui reste vraiment la vedette de l'assiette.
Ouais, vive les épices qui relèvent à la fois pour l'œil et pour les papilles. Eh bien, nous arrivons à la fin du deuxième volet de notre triptyque cuisine couleur. Mais nous avons encore faim. Donc nous retrouverons le chef Grégory Coutenceau pour la troisième et dernière émission avec lui. Grégory Coutenceau, au revoir.
Au revoir.
Et d'ici là, prenez tous bien soin de vos couleurs.